vous avez contesté les chiffres que je donnais, donc laissez-moi finir.
Ouais.
C'est
attends,
un fait.
Calmez-vous, quand même. On va se calmer,
il n'aime pas le prix en défaut.
Vous avez contesté, vous avez vous
alors,
contesté
allez-y. Les chiffres
que je donnais. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir sur une chose.
Vous êtes
il y a trois...
L'élégance rare.
Vous l'avez entendu, le calmez-vous, hein ? L'extrait choc qui prouve que lorsqu'un politique est mis en difficulté par un journaliste, il lui dit calmez-vous, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Philippe Corbet est mon invité, chef du service politique de BFM. Il est devenu un personnage de télé à force d'occuper les plateaux de la chaîne Info et de marteler que la politique, comme le journalisme, sont régis par des principes. L'homme rentre de 5 années américaines où il a avalé au kilomètre du Trump, du trumpisme et les dommages collatéraux sur la sphère médiatique. Rentré en France, il semble avoir renoncer à dormir, comme en témoigne ce curieux podcast où les journalistes de son équipe dévoilent en se tutoyant, accoudés au comptoir, la tambouille de leur métier. Au mieux, on est dimanche à 21h, au pire, un mardi à 23h35.
Hier soir, vous voulez dire.
C'est ça. L'occasion, lorsqu'on a l'oreille fine, de saisir à chaud quelques éléments de ce qui préoccupe la chaîne et de ses manières de faire.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour à vous Philippe Corbet.
Bonjour Sonia de Villers, merci de m'avoir invité.
Mais vous êtes le bienvenu sur France Inter. Alors Philippe Corbet, vous n'êtes ni le patron de BFM et vous n'étiez pas là au moment des faits. Vous étiez journaliste à RTL, vous avez passé 18 ans de votre vie. Il n'empêche qu'entre le moment où je vous ai invité et ce matin où vous arrivez en studio, Mediapart a publié une longue enquête sur Jean-Jacques Bourdin. Des femmes qui témoignent à visage découvert, d'autres anonymisées. Bourdin, l'incarnation phare de BFM, le matin et puis parfois le soir, il a été écarté de l'antenne. Une plainte a été déposée en justice pour agression sexuelle. Une enquête a été ouverte en interne. Alors, je vous pose une question qui est que dans cette enquête, on relève en fait et on met en question la culture d'entreprise. La culture d'entreprise de BFM TV qui est décrite dans cet article comme particulièrement, je cite, « violente à l'encontre des jeunes femmes ». Et pas seulement du fait de Jean-Jacques Bourdin.
Alors, moi, je viens d'arriver dans cette chaîne il y a un peu plus d'un an. Je n'ai pas constaté de culture qui soit particulièrement violente. Et je connais des rédactions, sans les nommer, où moi je n'ai pas travaillé, je ne parle pas de la rédaction d'où je viens, de RTL, mais où la culture était très violente. Mmh. Et je n'ai pas constaté ce genre de choses à BFM TV. Je crois même, et en tout cas moi ça m'a frappé, que c'est une rédaction bienveillante, accueillante, et ça s'explique aussi par le rythme de travail, puisqu'il est intense, et que c'est une rédaction plutôt accueillante.
Ouais, ouais.
En tout cas, c'est ce qui m'a frappé.
Les femmes qui témoignent dans cet article, Philippe Corbet, elles disent s'être décidées à témoigner, décidées à parler, décidées même à porter plainte pour l'une d'entre elles, lorsqu'elles ont entendu l'interview de Nicolas Hulot en 2018, reçue par Jean-Jacques Bourdin, la veille d'une enquête qui allait l'accuser de viol. Le journaliste, à ce moment-là, n'a aucun élément, et donc il laisse Nicolas Hulot dérouler ses arguments et flinguer l'enquête à venir. Il se trouve que BFM a refait la même chose cette année. Alors là, pour le coup, vous étiez là. Je ne sais pas si c'est vous qui avez décidé de son invitation, mais il se trouve qu'il y avait un envoyé spécial sur France 2 qui allait raconter que personne n'avait vu le film et que Nicolas Hulot était invité le matin même chez Bruce Toussaint sur votre antenne.
Alors, ce n'est pas moi qui me suis chargé de cette invitation. Nicolas Hulot était invité, il était chez Bruce Toussaint.
Oui.
Et toutes les questions...
C'est l'émission du matin, voilà, c'est la tranche du matin.
Les questions lui ont été posées. Il était d'ailleurs déstabilisé, et ça n'était pas du tout un moment d'accueil ou d'accompagnement d'une stratégie de communication. Je crois même, il me semble, a posteriori, cette interview que vous évoquez de Nicolas Hulot il y a plusieurs années, je ne travaillais pas à BFM TV, c'était pas une bonne interview, il me semble, d'un point de vue journalistique, parce que on n'y apprenait pas grand-chose et parce que on commentait des éléments que le journaliste qui interviewait n'avait pas. Là, ce n'était pas exactement le cas pour Bruce Toussaint, et moi j'ai vu, et je le regardais à la télévision depuis mon bureau, j'ai vu Nicolas Hulot déstabilisé ce jour-là, parce que Bruce Toussaint faisait son travail de journaliste.
Je vous fais écouter, on revient sur l'actualité politique, Valérie Pécresse qui répond aux critiques après son meeting. Meeting, je précise, que vous avez retransmis sur BFM TV, et vous étiez en direct sur un plateau au cœur de la salle.
Ouais. Il y a eu un problème de son qui faisait que quand on m'applaudissait, c'était un blanc à la télé. Donc ça faisait un effet très bizarre, c'est-à-dire que je parlais blanc. Et donc en fait, les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce meeting? Mais tous ceux qui étaient dans le meeting ont trouvé le meeting super. C'est ceux qui l'ont regardé à la télé qui l'ont trouvé difficile.
Et d'ailleurs, vous lui avez vous-même tendu, enfin vous-même, votre chaîne tendu le micro pour qu'elle s'explique. Vous qui étiez là-bas, vous confirmez ?
C'était pas un bon discours. Tout le monde dans la salle et à l'extérieur de la salle a compris. Moi, j'ai compris, on était dans la salle et je recevais beaucoup de messages de gens qui me disaient, il y a un problème d'ambiance dans la salle. Il n'y a personne, il n'y a pas d'ambiance, pourquoi les gens n'applaudissent pas? Et on s'est rendu compte au cours du discours qu'il y avait un problème de leur part, de la réalisation de la campagne, puisque ça n'est pas nous qui tournions le son et l'image, c'est la campagne qui fournit un flux vidéo et qui ne prenait pas assez le son de l'ambiance de la salle. Et donc elle, parfois faisait de longs silences pour laisser vivre la salle. Et disons-le, et elle le reconnaît elle-même, elle s'est laissée dominer par la salle et qui applaudissait parfois à des mauvais moments. Et elle n'a pas su reprendre la main. Mais ça ne s'entendait pas exactement à la télévision. Et du coup, l'effet à la télévision était démultiplié par rapport à ce que nous vivions dans la salle.
D'accord. Donc, la faute à l'équipe de Valérie Pécresse, à l'équipe de campagne qui vous fournit les images clé en main.
Absolument, parce qu'il faut le rappeler, on le fait systématiquement à la fois sur un bandeau à l'antenne et avant et après chaque diffusion d'un meeting, comme les autres chaînes d'ailleurs. C'est que le flux vidéo est capté par l'équipe de la campagne. Et donc, c'est un exercice de communication et non pas d'information. Et donc, ils se chargent de la réalisation.
C'est ça.
Donc, ils font une réalisation très, très léchée. Et là, en l'occurrence, elle était partiellement ratée, notamment sur le son, puisque le son donnait l'impression que la salle, il n'y avait pas d'ambiance dans la salle.
Aux États-Unis, c'est la même chose, puisque vous y avez passé plusieurs années. Les équipes de campagne fournissent aux chaînes d'infos.
Alors, les conventions, oui, parce que les conventions, tous les 4 ans, sont des grands moments de spectacle télévisuel en prime time sur toutes les chaînes. Donc, ça, c'est particulier. Mais les réunions publiques, non. Les réunions publiques, c'est toutes les chaînes qui viennent avec leur caméra sur un praticable et qui filment, et d'ailleurs qui ne filment souvent que un carré avec le candidat. Et c'est pour ça que BFM TV avait essayé, avant que je n'arrive, mais avait essayé à l'occasion de la campagne de 2017 de convaincre les autres chaînes d'information d'organiser un système de... Alors, en interne, où les journalistes parlent de pool, c'est-à-dire qu'une sorte d'organisation, mutualisation, où on aurait, d'une certaine manière, financé une forme de captation de bonne qualité des meetings. BFM TV a essayé de convaincre les autres chaînes de le faire. Les autres chaînes ne l'ont pas voulu. Et on le regrette parce que nous, on pense que ce serait mieux, il y aurait davantage, d'une certaine manière, de journalisme si nous captions ou si les chaînes étaient en charge de la captation des discours.
Valérie Pécresse dit dans la suite de cette interview, dont je viens de vous diffuser un extrait, « Quand Macron a fait son fameux discours en campagne avant d'être ému et qu'il a fait sa mue, c'est son expression, hein, en direct, personne ne lui a fait les mêmes reproches que moi. J'ai écouté le podcast que vous réalisez avec votre équipe. On écoute Perrine Vasque et elle relate ses reproches qui lui sont faits régulièrement, à elle comme aux autres.
Dès lors que l'on dénonçait cette campagne qui ne prenait pas, etc., systématiquement, on nous renvoyait cet argument. C'est tout le monde est hyper dur avec Anne Hidalgo parce que c'est une femme. Et je l'entends encore aussi avec Christiane Taubira. Moi, ça faisait plusieurs fois que j'observais un manque de préparation de Christiane Taubira. C'est pour ça aussi que je me suis permis de relater ce fait. Parce que pour moi, c'était un fait de campagne, parce que ce n'était pas la première fois qu'il était observable. Mais en aucun cas, je fais ça parce que ce sont des femmes. Mais par contre, en aucun cas, je tairais parce que ce sont des femmes aussi.
Philippe Corbet.
Alors Perrine Vasque, en fait, c'est notre reporter qui suit notamment l'une des reporters qui suit la gauche. Et là, elle parle d'un moment qui est devenu viral, un moment de BFM TV, lorsque Christiane Taubira est allée devant la Fondation Abbé Pierre, a été interrogée notamment sur le logement social. Et l'ensemble n'était pas très convaincant, mais il y avait notamment un moment assez
particulièrement... Assez gênant, assez malaisant. Ouais.
Et Perrine Vasque m'a appelé, elle est sur le terrain, elle m'a dit... Écoute, je pense que ça, il faut qu'on le raconte parce que ça raconte un truc sur Taubira qui, parce qu'elle arrive en retard en campagne, n'est pas assez préparée. Et je lui dis, j'ai essayé de convaincre l'antenne, on lui a trouvé 1 minute 30. Je lui ai dit, il faut faire court et percutant. Et donc, elle a été court et percutante. Et cette séquence est devenue virale instantanément, reprise beaucoup par les autres partis, notamment la France Insoumise, le Parti Socialiste. Et du coup, elle a été attaquée, Perrine Vasque, par les gens qui disaient, mais vous l'attaquez parce que c'est une femme. Et donc là, dans ce podcast, on en débriefait ensuite.
On se retrouve entre le marteau et l'enclume, les candidats qui disent on m'adresse des reproches qu'on n'adresserait jamais à un homme. Permettez-moi de rappeler que Macron a pris mais vraiment des remarques et des critiques et des reproches d'une violence inouïe pendant un mois quand il avait fait ce meeting où il avait la voix qui déraillait et qu'en plus, derrière les reproches et les critiques, il y avait des sous-entendus dégueulasses.
Vous savez que RMC, dans les grandes gueules, utilise tous les matins, toujours dans ses jingles, 5 ans plus tard, cet extrait-là, tous les matins. Parce qu'il est particulièrement...
ridiculisant.
Ridicule.
Voilà. C'est ça.
Ridicule. Oui, mais il traduisait à l'époque, il traduit toujours aussi, a posteriori, une forme de, je dirais pas d'amateurisme, mais de nouveauté. Il n'était pas un politique expérimenté qui avait fait 40 ans de meeting. Et donc, c'était aussi ça que ça traduisait à ce moment. Ouais. Une forme de d'impréparation.
Eh ben,
ou
c'est
de
là
fraîcheur.
Que je voulais en venir. Mais comme juste un mot sur la misogynie, ouais. C'est-à-dire que vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, les candidats, eux, qui disent, mais on dirait jamais ça à un homme, même si elles sont de mauvaise foi. Et puis, les critiques du public. Et vous qui êtes arrivé avec un œil neuf après 5 années à l'étranger, Vous arrivez en pleine campagne présidentielle. Vous avez constaté la misogynie à l'égard des femmes candidates, des femmes du personnel politique français, la misogynie des médias, la misogynie de la presse.
Il y a une vie politique en France qui est misogyne. Il y a une vie politique en France qui est particulièrement misogyne. C'est pas spécifique à la France. J'ai vécu en 2016 la campagne d'Hillary Clinton, qui par ailleurs avait plein de défauts et était par certains aspects une mauvaise candidate, mais qui était oui, la cible aussi de misogynie. Beaucoup plus, il me semble, mais là, je donne mon avis personnel, ce que j'évite de faire généralement sur BFM TV, mais je pense que la France est une démocratie dont la vie politique est moins mature et moins moderne que, par exemple, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et que, je prends cet exemple de la misogynie, mais c'est le cas aussi pour d'autres aspects, notamment dans le rapport à la presse, et que, moi, je le souligne parfois parce que je suis frappé de cette idée qu'en France, ça s'est toujours fait comme ça, donc ça devrait toujours passer comme ça, et de toute éternité, la vie politique française serait brutale, machiste et d'une certaine manière un peu arriéré parfois. Et je ne parle pas de ce qui spécifiquement ce qui s'est passé Valérie Pécresse dimanche.
Non, non.
Moi, ça me frappe et je trouve ça assez triste d'un point de vue démocratique que la vie politique française soit autant une vie politique de... J'ai l'impression parfois qu'on est dans les années 70, quoi.
Mmh. Alors, vous disiez tout à l'heure, Philippe Corbet, et on est revenu à la misogynie, vous disiez, il était tellement révélateur, ce meeting d'Emmanuel Macron qui perdait la voix. VOIX.
Tout en cherchant sa voix, il perdait la voix.
Voilà, exactement. Donc, c'était très révélateur. Eh bien, justement, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai écouté beaucoup d'épisodes de ce podcast. Ce sont des épisodes courts. Ça fait 15 minutes. Vous voulez peut-être nous raconter comment vous le bricolez?
Alors, on s'est inspiré d'un podcast que fait un balado que fait le NPR, qui est la radio publique américaine, qui est une forme de, après l'événement, après le moment important, une discussion entre journalistes et reporters, qui est vraiment sur un mode, non pas d'interview ou d'émission autour d'une table, mais vraiment, on se tutoie
donc c'est bricolé, c'est enregistré.
Et on fait ça à l'iPhone, voilà. On se parle à l'iPhone, l'un est dans un train, l'autre est chez lui, le troisième est Dieu sait où, en voiture, et on fait ce qu'on aurait fait naturellement, c'est-à-dire... On débriefe après un moment.
Donc c'est de la tambouille. Et c'est l'occasion de remarquer qu'il y a des remarques sur la forme qui reviennent en permanence après la prestation de tel ou tel homme politique, y compris dans vos émissions, Philippe Corbet, sur BFM TV.
En fait, quand j'ai vu ce mail de cette téléspectatrice qui dit « il ne sourit pas », je me suis dit moi-même « mais c'est vrai qu'il n'a pas souri vraiment depuis le début ». Et je me suis dit effectivement, c'était comme une sorte de mur et infranchissable où le message ne passait pas à travers l'écran. Il y a des choses sur le visage qui se lisent, les yeux un peu plissés, la voix qui devient plus grave. Je vous ai pas embêté avec cette question, mais il y a parfois un petit agacement, un petit énervement, des mimiques aussi sur le visage, des grimaces qui se laissent apparaître et qui font que il peut parfois encore avoir une image qui laisse penser qu'il a un côté arrogant.
Mais l'image, c'est vous qui la fabriquez, c'est vous la télévision, c'est vous les médias audiovisuels. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est devenu primordial dans la façon dont vous jugez la performance des candidats, comme si vous parliez d'acting. Il est à l'aise, il n'est pas à l'aise, comment est son visage, comment sa gestuelle, Zemmour, il s'est levé, il a été d'un tabouret à l'autre, etc.
Mais ce qu'on entendait, pour que les auditeurs comprennent, c'est un reporter, Léopold Audebert, hier soir, puisque c'est un épisode qu'on a enregistré dans la nuit, pendant l'émission que nous faisions avec Yannick Jadot dans la soirée, face à BFM, il relayait les questions des téléspectateurs. Et une téléspectatrice, effectivement, envoie un message en disant « Mais pourquoi ce candidat ne sourit pas ?» Et il mentionne à Yannick Jadot dans l'émission ce message, et c'est un point de bascule dans l'émission. C'est un point de bascule parce que dans la deuxième partie de l'émission, Yannick Jadot est plus à l'aise, ou en tout cas apparaît différemment. Et d'ailleurs, on en reparle ensemble à la fin de l'émission. Et je lui dis « Mais est-ce que ça ne révèle pas quelque chose, au fond, sur votre campagne ?» Regardez Fabien Roussel qui fait une campagne joyeuse, la campagne des jours heureux. Est-ce que sa dynamique dans la campagne, ça n'est pas aussi en creux souligné que d'autres campagnes, et notamment celle de Yannick Jadot, est une campagne plus terne, ou en tout cas moins enthousiasmante. Et voilà, quelque chose qui est un élément d'image très bref, une remarque de téléspectateurs, a été le moment de bascule dans l'émission, parce qu'après il dit « Mais oui, nous devons faire une campagne plus enthousiasmante ». Donc l'image, ça n'est, enfin, c'est très bête de le dire, mais les téléspectateurs qui regardent la télévision n'ont pas exactement la même attitude que s'ils écoutaient la même personne dire la même chose à la radio.
À la radio.
Et parfois, notre rôle, c'est aussi de, non pas seulement de créer des moments d'image, mais aussi de savoir les raconter, parfois les décrypter. Et en l'occurrence, ce moment-là, hier soir, avec Yannick Jadot, et je pense que c'était un moment important dans l'émission.
Alors, qui dicte l'agenda médiatique? Est-ce que ce sont les candidats ou est-ce que ce sont les médias? J'ai regardé beaucoup de vos interventions sur les plateaux de votre propre chaîne, Philippe Corbet, et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un mot qui revient souvent dans votre bouche. Nous voici piégés. Nous ne voulions pas en parler, nous voici obligés d'en parler. Notamment, c'est quelque chose qui revient souvent à l'égard d'Éric Zemmour. Par exemple, le matin du meeting de Valérie Pécresse, vous êtes en plateau sur BFM TV, le meeting n'a pas commencé.
Vous regardez beaucoup BFM TV.
Non, maintenant j'ai préparé mon émission, j'ai travaillé avant de vous recevoir. Et vous dites, c'est incroyable, Zemmour hier l'a attaqué avec une extrême violence, virulence, il a répété les coups, il a bien fait, il s'est invité dans le meeting du lendemain. Oui. Regardez la preuve, on en parle.
Ouais. Je crois pas avoir dit qu'on était piégés.
Vous avez dit piégés quand il s'est agi de cette séquence épouvantable au salon de l'armement.
Où il avait braqué une arme sur des journalistes.
Zemmour avait fait
absolument
semblant de braquer une arme. Et là, vous avez dit, on ne voulait pas la diffuser, nous voilà obligés de le faire.
Voilà, exactement. Et piégés, pour rappeler le contexte, pas seulement par lui, mais par le débat qui était monté à ce sujet. Ouais. Dimanche matin, en fait, Éric Zemmour, quelle est sa spécificité? Ou l'une de ses spécificités par rapport à tous les autres? C'est que c'est pas un homme politique, il vient d'entrer dans le champ politique. Et il a un talent incroyable de capter l'attention. Mais de capter l'attention parfois de façon violente, brutale, mais souvent astucieuse. Il aspire l'oxygène des autres. Il aspire l'oxygène des autres. Et donc, voilà, j'ai tout simplement dit, par exemple, que samedi après-midi, il fait un discours extrêmement violent sur Valérie Pécresse, parce qu'il sait très bien que s'il fait un discours extrêmement violent
vous
sur Valérie
Pécresse,
on va devoir l'évoquer dimanche matin, parce que c'est le jour où on aura les yeux braqués sur Valérie Pécresse. Et on l'a fait, je crois, assez peu, moins que d'autres chaînes vendredi dimanche matin, et en soulignant bien à quel point Éric Zemmour était astucieux ou redoutablement efficace pour s'imposer finalement dans notre couverture du discours de Pécresse.
C'est ça, mais c'est une posture de journaliste qui interroge quand même, c'est-à-dire est-ce qu'on vous impose? On vous impose parce que vous êtes entièrement maître de vos choix éditoriaux, de la hiérarchie de l'information. Je vous fais écouter une petite séquence.
On n'a pas diffusé par exemple le discours d'Éric Zemmour samedi après-midi.
Alors je vous fais écouter une petite séquence. Ça c'est Zemmour face au Bataclan le 13 novembre. Breaking news sur BFM, vous avez même interrompu la pub.
Le président de la République, l'ancien président de la République, a dit lui-même qu'il savait que des terroristes seraient infiltrés parmi les migrants et qu'il n'a pas arrêté le flot des migrants. J'ai simplement dit que c'est exactement ce qui était arrivé.
C'est toute la question, Philippe Corbet. C'est-à-dire, à partir de quand on ouvre l'antenne, même y compris au milieu d'un spot de pub, parce que Zemmour dit quelque chose qu'on sait violent, qu'on sait à l'avance violent et choquant, on est un anniversaire de 13 novembre devant le Bataclan, ou est-ce qu'on se le garde et on décide soit si ça mérite d'être diffusé?
Alors, d'abord, pour préciser, on casse souvent la pub. C'est-à-dire que, priorité au direct, quand il se passe quelque chose et qu'on le joue en direct, on casse la pub.
Ouais,
ça se passe spécialement sur ce moment-là. Pour tout vous dire, c'est un samedi soir, et dans la demi-heure qui vient, parce qu'on a eu l'info qu'il va aller au Bataclan, et dans la demi-heure qui vient, moi je suis au téléphone avec la directrice de la rédaction, Céline Pigalle, et pendant une demi-heure, on discute de on le fait ou on le fait pas. Mais vraiment une discussion de journalistes. On le fait ou on le fait pas. Et la décision a été prise, finalement, de le jouer. Pourquoi? Parce que c'était un moment révélateur de ce qu'il disait dans cette campagne. Aussi de la provocation et du choc qu'il provoque dans ce débat politique. Et a posteriori, puisque c'était un débat journalistique, a posteriori, c'est un moment de bascule. Ce jour-là, il fait, d'un point de vue purement cynique d'analyse politique, une erreur politique majeure. Majeure. À partir de là, dans les sondages, il décroche. C'était un moment de vérité de cette campagne.
Merci beaucoup, Philippe Corbet. Donc, chef du service politique de BFM.
Le podcast s'appelle Le Service Politique. Il sera quotidien à partir du 5 mars.
Mais donc, vous renoncez définitivement à dormir. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Vous reviendrez. Vous serez le bienvenu. C'est la fin de l'émission. Bonjour, Ali Rebeilly.
Bonjour, Jeanne de Villers. Est-ce que vous connaissez Hermione Granger?
Bah oui, bien sûr. Oui, Harry Potter.
Harry Potter, évidemment.
Je crois que mon fils était amoureux d'elle.
C'est vrai. Oui. Bon, ben, ce matin, comment Harry Potter peut aider vos enfants et vos adolescents dans l'existence, que vous soyez parents, enfants, adolescents, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 pour nous raconter l'effet que fait Harry Potter dans votre vie.